Et puis, l'empreinte, je vous disais, on parle d'empreinte digitale, mais on pourrait parler aujourd'hui d'empreinte numérique. Et c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. C'est le retour de l'abécédaire anticapitaliste de la claque. Cette semaine, S comme surveillance. On pourrait rajouter surveillance électronique. Et pour en parler, je suis en compagnie de Paul, qui était avec nous le 22 octobre dernier pour une autre chronique de la claque. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Alors, Paul, je tiens à préciser que Paul, c'est un nom d'emprunt. La claque étant l'objet d'un profilage politique et d'une surveillance policière, notamment en vertu de la politique antiterroriste du Canada qui, on le sait, et si on le sait pas, ben je vous le rappelle, considère l'anticapitalisme comme une menace extrémiste d'origine intérieure. Alors ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler longtemps, mais on va parler de surveillance électronique, la surveillance sur Internet. Paul, la parole est à toi.
Ouais, ben moi c'est ça, j'ai essayé de rapper un peu mes idées autour de ça. J'ai beaucoup réfléchi à la surveillance. Je travaille en informatique, fait que c'est ça, je réfléchis beaucoup à la surveillance. On en voit beaucoup. C'est ça, j'ai essayé de faire une espèce de petit wrap-up un peu des déclarations qu'avait faites par exemple Snowden. Il a relâché plusieurs documents qui venaient de l'intérieur de la CIA aux États-Unis et puis dans le fond de la NSA, excusez, aux États-Unis. Puis dans le fond, notamment, ça a affaire à plusieurs programmes de surveillance qui étaient en cours aux États-Unis depuis plusieurs années. Ces programmes-là, il y en a plusieurs et puis c'est quand même des programmes qui sont énormes et super complexes, qui sont des programmes de surveillance qui sont en place depuis plusieurs années, qui avaient des ramifications dans plein de dans plein de sphères de la vie privée. Fait que je vais juste commencer à faire une espèce de petit survol des différents programmes. Le premier, c'est le programme PRISM, P-R-I-S-M. C'est un programme, dans le fond, qui allie tous les gros joueurs de l'Internet, Yahoo, Gmail, Hotmail, Facebook, Skype, pour la surveillance des utilisateurs. Utilisateurs, utilisatrices. Dans le fond, c'est ça. Ce qui est vraiment... c'est vraiment un programme où il y a une collaboration totale. Parce qu'on sait, genre, notamment, après les années 2000, tu sais, je veux dire, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, une des sources de revenus qui a été utilisé pour les fournisseurs de services Internet, qui sont souvent des services gratuits, bien, ça a été de revendre les données des utilisateurs et utilisatrices, et notamment, c'est possible de les revendre aux gouvernements qui ont besoin de ces données-là, gouvernements, genre, qu'eux autres, qui ont besoin de ça pour surveiller la population. Alors, concrètement, c'est comme ça un peu qu'a été mis en place le programme PRISM. Et puis ça, c'est un programme qui va quand même en profondeur dans les messages, dans les communications des individus. Notamment, il y a eu un des documents qui permet... Qui dit explicitement que c'est possible de voir les brouillons de courriels qui n'ont pas été envoyés. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment des compagnies qui vont donner de l'information sans mandat. Et puis, cette information-là, par contre, c'est seulement pour les communications qui sont non internes aux États-Unis. Sauf que la question avec ça, c'est quoi une communication qui est interne aux États-Unis? Parce qu'on le sait, dans la plupart des cas de surveillance électronique, c'est des cas où il y a de la surveillance d'hôtels, notamment, parce qu'on sait que les gens, c'est probablement des ressortissants étrangers, des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui sont en voyage ou quelque chose. Fait que c'est pas une communication interne. Ensuite de ça, c'est ça, la NSA se défend d'utiliser, de ne pas surveiller ils sont obligés d'effacer les enregistrements qui sont de la communication interne. Et puis, eux autres, leur pourcentage de probabilité, c'est comme 51%. On assume que si on n'a pas beaucoup de preuves, on assume que c'est des gens de l'extérieur.
Et donc, ça, c'est un programme qui s'appelle PRISM. Ça sonne un peu comme Prison, mais il y en a d'autres. XKScore, notamment. Ça sonne un peu comme Keystone XL, d'ailleurs, pour continuer dans les jeux de mots. XKScore, donc un autre programme de surveillance du réseau Internet.
Oui, exactement. Ce programme-là, c'est un programme qui sert à traquer, dans le fond, les empreintes des navigateurs sur l'Internet. Fait que, notamment, il essaie juste de tracer, dans le fond, cette personne-là, à partir de cette adresse IP-là, à se connecter sur tel site, tel site, tel site. Elle utilise, tu sais, il y a plein de choses. Par exemple, elle utilise tel navigateur. Fait qu'ils savent que si c'est de la même si jamais c'est toujours le même navigateur, c'est peut-être la même personne. Fait que dans le fond, ils font des liens entre les choses. Ils font des liens entre les adresses courriels. Ils lient, par exemple, vous savez probablement que Gmail, si jamais vous êtes connecté, bien, les publicités, genre, sur les sites, vont être liées à votre identité. Ça, c'est parce que les publicités qui sont sur les sites sont vendues par Google. Et puis, ces publicités-là, notamment, ben, tu sais, quand ils sont loadés, ben, ça permet l'information, genre, qui est partagée avec Google d'être partagé avec le site en question. Fait que ce qui se produit, c'est que comme ça, c'est possible de voir pour eux autres, de voir exactement quels sites sont visités par chacun chacune, et puis dans le fond d'être capable de retracer à partir d'une adresse de courriel, t'as cherché pourquoi sur internet, par exemple, si t'as cherché par rapport à des ingrédients chimiques ou ben donc à des choses comme ça, tu sais. Fait que c'est ça, ça permet d'avoir une énorme base de données assez consultable en temps réel, tu sais. Je veux dire, les documents qui ont été relâchés par Edward Snowden, c'est des documents genre qui disent comment te servir de ça pour essayer de trouver qui se sert de quel outil de sécurité dans tel pays. C'est très clair. Et puis c'est ça le ouais.
Ça s'ajoute, là, parce qu'on pense que c'est tout récent, là, ces programmes de surveillance-là, mais ça fait plus de 50 ans qu'il y a des programmes de surveillance qui existent. Ça fait juste s'ajouter à tout ça.
Exactement. Au début, la raison qui était utilisée, notamment, genre, pendant la guerre froide, c'était la surveillance des espions. Notamment, il y avait le programme Echelon qui était utilisé. Que ça, on n'a jamais, tu sais, il n'y a jamais eu de vraies informations qui sont sorties, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses à propos de ça. Notamment, c'était possible, tu sais, il y avait comme la rumeur pendant... Moi, je me rappelle au début de ma militance, tu sais, tout le monde parlait de si tu dis le mot « bombe » au téléphone, ben ça va être retracé, tu sais. Puis, je veux dire, il y a des centres d'écoute, tu sais, puis ça, c'est ça fait partie des lois sur les télécommunications, tu sais. Tout fournisseur de télécommunications doit être en mesure de surveiller ses utilisateurs et utilisatrices, puis de permettre au gouvernement de le faire, tu sais. Puis ça, c'était des lois qui ont été faites par rapport au téléphone à partir des années 20-30, tu sais. Mais par la suite de ça, ça a été développé, genre, dans des programmes de surveillance beaucoup plus systématique pour éviter d'avoir à écouter tout le monde. T'sais, ils ont juste fait des systèmes de détection de choses particulières. Ensuite de ça, ben, faut se dire que ça, ces affaires-là, tous ces programmes-là, c'est des choses qui permettent de l'écoute sans mandat. Puis c'est là que ça commence à être vraiment intéressant au niveau juridique. Parce que concrètement, si on peut savoir ce qu'une personne fait, dans quoi est impliquée, tu sais, c'est vraiment possible de savoir comment l'arrêter, t'sais. Puis à partir de là, mais tu peux pas avoir de mandat parce que c'est pas des preuves que tu peux utiliser en cours. Parce qu'on le sait notamment, les gouvernements voudront pas dire en cours, on a un programme de surveillance de toute la population, et puis, tu sais, ça va créer quand même un soulèvement massif, genre si jamais c'est fait ouvertement. Alors, ces preuves-là sont utilisées simplement à l'interne. Et puis, c'est ça, ça aide à justifier, et puis... Dans un contexte de surveillance massive comme ça, ce qui se produit effectivement, c'est une augmentation de l'arbitraire des arrestations. Parce que comme ils ont les informations, tu sais, on le sait que tout le monde, tu sais, je veux dire la moitié du monde au Québec ou au Canada, genre fume du pot. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui sont illégales. Par exemple, tu sais, je veux dire dans les manifestations, il y a des gens qui ont été arrêtés pour méfaits, pour avoir mis des autocollants des fois. Tu sais, il y a à peu près tout qui est illégal. Alors concrètement, c'est possible de surveiller à peu près tout, notamment les conversations par texto, les choses comme ça. Si jamais par exemple, une personne écrit à une autre après une manifestation, ce que ça, il y a peut-être eu des choses qui se sont produites. Hey, t'es-tu correct? Puis l'autre personne répond oui. Ça peut être utilisé dans le cadre d'un procès en cours. C'est des informations qui prouvent que la personne était présente à une manifestation ou non. Ensuite, il y a plein de choses comme ça. Puis, c'est ça, ça aide vraiment à permettre aux policiers, dans le fond, de savoir les gens vont être où, quand, comment, puis comment faire pour les arrêter, puis sous quel prétexte. Fait que ça, c'est une des énormes conséquences. Mais l'affaire, c'est que nous autres, on est au Canada.
Donc, ça ne nous concerne pas. C'est des programmes américains.
C'est là l'énorme erreur. C'est que ça nous touche directement la surveillance de la NSA et encore plus parce qu'on n'est pas des citoyens américains. Je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, c'est seulement la NSA est pas supposée d'enquêter sur ces gens à l'interne. Mais nous autres, en tant que Canadiens, Canadiennes, ou, ben, tu sais, pour le monde qui n'ont pas de statut, tu sais, je veux dire, les résidents Canadiens, Canadiennes, les résidents et résidentes, pour nous autres, ben ça a encore plus de conséquences parce qu'on est surveillé à temps plein. Et puis ce qui se produit avec, par exemple, genre dans le cadre du partenariat pour la sécurité et la prospérité, il y avait des ententes qui ont été mises en place, des ententes bilatérales, notamment entre le Canada et les États-Unis pour le partage du renseignement de sécurité. Alors, comme c'est interdit, les gouvernements ont à effacer les enregistrements pour la surveillance les gouvernements ont à effacer les enregistrements pour la surveillance de citoyens à l'intérieur du pays. Alors ce qu'ils font, c'est que ils effacent les renseignements sur les gens à l'intérieur de leur pays, mais ça fait partie d'une entente entre les gouvernements de partager l'information avec le pays d'à côté.
Donc, c'est un gros problème. Hein, ça, là, on voit comment ça se passe aux États-Unis. On peut imaginer comment ça nous affecte ici au Canada. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? C'est quoi les solutions pour se défendre de cette surveillance-là?
Ah, les solutions, il y en a plusieurs. Il faut se rappeler que l'Internet, c'est un champ de bataille. Il y a plusieurs personnes sur Internet qui essayent de faire des bonnes choses malgré que tu regardes les commentaires sur YouTube puis ça paraît pas bien, genre qu'il y a du monde qui essaie de faire des bonnes choses sur Internet. Mais il y a des services qui sont offerts, notamment des services de VPN. C'est des réseaux privés virtuels, dans le fond, qui permettent de tout mélanger les connexions à Internet de groupes d'individus. Il y en a des gratuits. C'est des services qui sont offerts, entre autres, par RiseUp.net. Ensuite de ça, il y a Facebook, Hotmail, Gmail, tout ça. Malheureusement, c'est des services qui sont super conviviales, mais c'est des services qui collaborent avec les forces de l'ordre et puis qui ont des politiques de collaboration systématiques avec les forces de l'ordre. Et puis souvent, ils vont même mettre des machines à la disposition des forces de l'ordre pour accéder aux renseignements que vous mettez là-dessus. Alors, ça vaut la peine de faire attention. Puis concrètement, c'est important de se rappeler que même si jamais vous n'êtes pas activiste, ça vaut la peine de se protéger parce que c'est des droits, des libertés fondamentales qui sont attaquées. Parce qu'avant, on avait le droit d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Désormais, on est surveillé jusqu'à temps qu'on soit innocent. Alors, ça vaut vraiment la peine de regarder un peu qu'est-ce qui se fait en sécurité informatique, de lire sur Tor, T-O-R, une espèce de proxy qui permet de dissimuler nos connexions à Internet, de regarder des projets comme PGP qui permettent d'encrypter des courriels. OTR, c'est un autre protocole qui est super intéressant, qui est utilisé. Vous pouvez l'utiliser par-dessus Facebook, par exemple, pour simplement encrypter vos communications avec des gens à l'intérieur de Facebook. Et puis, il y a plein d'outils comme ça qui sont développés. Et puis, c'est ça. Ça vous permet de protéger vos libertés fondamentales. Puis, c'est ça. Puis en même temps, ça empêche genre qu'il y ait des anarchistes qui se fassent arrêter pour rien, parce que souvent ils ciblent les gens. Puis notamment, il y a eu des cas d'anarchistes qui ont été arrêtés pour utiliser des services de sécurité. Alors, ça vaut la peine genre de se protéger mutuellement en utilisant toutes des choses qui sont sécuritaires, qui sont bonnes pour nous, qui sont bonnes pour les autres.
Voilà. Donc, c'était S pour sécurité, l'abécédaire anticapitaliste de la CLAQ pour ce mois-ci. Merci beaucoup, Paul.
De rien.